Vous écoutez France Culture, il est 18h. Le journal s'est avoué avec vous, Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Donald Trump pourrait offrir dès demain à Benjamin Netanyahou la signature de la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur la partie du Golan occupée depuis la guerre des six jours et annexée 15 ans plus tard, précision de Loïc Loury. Le parti de la junte au pouvoir en tête des sondages sortis des urnes en Thaïlande, commentaire de l'anthropologue Bernard Fermoso. Puis au lendemain du massacre de 134 villageois Peul, le président du Mali limoge la haute hiérarchie de l'armée et annonce la dissolution d'une milice de chasseurs Dogon. Invité de cette édition, Bakonaré, fondateur de l'Association de défense des droits des populations pastorales. La politique, c'est la maîtrise du calendrier, de l'anticipation, au service d'une communication percutante, qui plus est à 2 semaines d'une échéance cruciale pour un candidat sous la menace d'une inculpation dans 3 affaires de corruption. Ce candidat, c'est Benjamin Netanyahou. L'échéance, les législatives israéliennes du 9 avril et l'image, c'est sa poignée de main à Washington avec Donald Trump demain. Et il lui faut une légende forte à cette image, la légende. Donald Trump signe la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, en présence de Benjamin Netanyahou. C'est ce que croit savoir ce soir Israël Katz, ministre israélien des Affaires étrangères. New York, Loïc Loury.
Une bénédiction pour Benjamin Netanyahou, voilà ce que constitue cette nouvelle incursion de Donald Trump dans la géopolitique fragile du Proche-Orient. En annonçant vouloir reconnaître l'annexion du Golan, le président américain brise une seconde fois le statu quo international, comme pour la reconnaissance de Jérusalem capitale, mais il s'immisce également dans les législatives israéliennes du 9 avril. En est, Benjamin Netanyahou a immédiatement salué un moment historique et publié la photo de son entretien téléphonique avec Donald Trump. Le premier ministre israélien au pouvoir depuis une décennie assure être le seul capable de tels succès diplomatiques et l'argument est important. Netanyahou est menacé par une triple inculpation pour corruption, abus de confiance et fraude. Sa réélection est plus que jamais menacée. À Washington, sa proximité avec Donald Trump devrait donc être largement affichée. Le premier ministre, honneur rare, sera reçu 2 fois à la Maison Blanche pour une réunion de travail puis pour un dîner. Côté américain, on exclut toute arrière-pensée. Donald Trump ne fait que reconnaître la réalité du terrain, affirme le secrétaire d'État, et la situation sécuritaire nécessaire à la protection d'Israël. Mais force est de constater que la campagne israélienne se déplace de l'autre côté de l'Atlantique.
Au lendemain de la chute de la ville de Baghouz, des soldats arabo-kurdes ont eu la surprise de voir sortir de tunnels des dizaines de combattants de Daesh qui se sont rendus aux effectifs des forces démocratique syrienne. 8 ans, les militaires au pouvoir en Thaïlande ont eu et ont pris le temps de bien préparer le terrain électoral avec la possibilité en cas de défaite à ces législatives de ce dimanche de contrôler depuis le Sénat la nouvelle majorité parlementaire. Eh bien, ces mêmes militaires seraient en tête de ce scrutin selon des résultats préliminaires issus du dépouillement de 90% des bulletins. Le Palang Pracharat, la formation de la junte au pouvoir, devance le principal parti d'opposition, le Feu Thaï, mené par l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. David Ravier a sollicité le commentaire de Bernard Fermoso, professeur d'anthropologie à l'université Paul-Valéry de Montpellier.
On peut s'attendre à ce qu'ils continuent leur hégémonie dès lors qu'ils arrivent premiers. Les choses auraient été sensiblement différentes si le parti Feu Thaï a été arrivé largement en tête. Mais là, dès lors que le parti proche des militaires est arrivé en tête, on s'inscrit dans une continuité à la fois politique et institutionnelle. S'il sort majoritaire et il a le Sénat qui lui est acquis, et comme le Sénat et les députés de la Chambre basse élisent de concert le Premier ministre, on peut s'attendre à ce que le général Chanotcha soit de nouveau au pouvoir demain. C'est une surprise parce que les dernières estimations avant le vote donner quand même un avantage au parti Feu Thaï, qui est proche effectivement des chemises rouges. Au cours des précédentes consultations électorales, le parti Feu Thaï était arrivé toujours largement en tête des bulletins exprimés, donc c'était vraiment une surprise. On pouvait s'attendre justement, au vu des dernières estimations, à ce que les voix en faveur du Feu Thaï soient plus importantes. Il faut quand même préciser et rappeler que le roi, et c'est peu courant, s'est exprimé d'ailleurs en faveur du parti des militaires il y a quelques jours. Il a appelé à voter pour les bonnes personnes, sous-entendu ceux qui, quelque part, le soutiennent depuis son intronisation, ce sont les militaires.
Voilà, Bernard Fermoso, professeur d'anthropologie à l'université Paul Valéry de Montpellier. Il y en eut des affrontements meurtriers, des tueries au centre du Mali entre éleveurs peuls et cultivateurs Bambara et Dogon, mais ces quatre dernières années, ces tueries intercommunautaires se sont multipliées depuis les premiers agissements du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa. Bamako le soupçonne de recruter au sein de l'ethnie Peul. Avant-hier, 134 habitants de la localité d'Ogossa d'Osaga Peul ont été massacrés en pleine nuit par des assaillants qui portaient des tenues de chasseurs Dogon, selon les rescapés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a réuni un conseil des ministres extraordinaire à limoger le chef d'état-major général des armées ainsi que ceux de l'armée de terre et de l'air et a annoncé la dissolution de l'association d'Annan Ambassagou, une milice de chasseurs Dogon. Bonsoir Bakonaré.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur de l'association de défense des droits des populations pastorales. Un premier commentaire de votre part sur justement cette réaction politique venue de Bamako.
Malheureusement, cette réaction risque de ne pas se traduire au niveau opérationnel sur le terrain. Dana Ambassagou est une association qui a commencé à être vue sur le plan national à partir de 2016. Les membres de l'association étaient reçus par les plus grandes sommités du pays, des membres de l'exécutif. Et en plus, malheureusement, on a souvent vu des agents des forces de sécurité maliennes faire des patrouilles avec des membres de cette association qui dit clairement qu'elle est une milice. Donc aujourd'hui, le gouvernement a décidé de dissoudre l'association. Donc c'est quelque chose de plutôt formel. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Quels moyens l'État a-t-il d'assurer que Dana Ambassagou ne continuera pas à nuire aux civils?
Parce que l'État, il est très absent de ce centre du Mali.
L'État est absent en termes de services et en termes de sécurité. Il y a quand même quelques postes où on retrouve des militaires, mais le problème c'est que la présence des militaires n'a pas empêché les massacres. Ce qui s'est passé à Ogossagou l'autre jour, on aurait pu le prévoir. Beaucoup de gens de la zone ont commencé à dire qu'il fallait se méfier et qu'il fallait venir en aide aux villageois, mais l'armée n'est jamais venue. Pourquoi ?
Alors pourquoi ? Ben, je vous pose la question.
Alors, je pense que l'une des raisons, c'est que dans cette zone-là, les djihadistes sont présents. Mais il y a toujours ce fond de conflit où on a l'impression que les djihadistes peuvent venir n'importe quand. Et justement, malheureusement, il y a eu cette espèce d'amalgame entre des civils peuls et les djihadistes, soi-disant parce que les peuls seraient proches des djihadistes. Alors qu'en réalité, les peuls sont aussi victimes que les autres communautés des djihadistes. Les djihadistes ont dit clairement qu'ils n'étaient pas là pour faire avancer une communauté par rapport à l'autre. Donc ça crée un sentiment qui fait que il n'y a pas beaucoup de sympathie pour les civils peuls dans cet endroit. C'est l'une des hypothèses que je fais. Et puis l'autre hypothèse aussi que je peux me risquer à faire, c'est que les forces maliennes ayant fait des patrouilles avec Dana Ambassagou voient peut-être moins Dana Ambassagou comme une menace, comme la menace réelle que l'association, la milice est réellement. Ils ont sans doute sous-estimé ce que la milice pouvait faire.
Mais diriez-vous, comme le gouvernement central, que le prédicateur djihadiste Amadou Koufa recrute au sein des Peuls? Est-ce vrai, partiellement vrai, complètement faux?
C'est vrai dans une certaine mesure, parce que Amadou Koufa lui-même est Peul et il a fait plusieurs prêches dans lesquels il appelait les Peuls à rejoindre son djihad en essayant de rappeler les djihads anciens, les empires théocratiques des Peuls au 19e siècle et en disant que les Peuls étaient les gens de l'islam. Mais en même temps qu'il appelle les Peuls à se battre pour lui, il leur dit « je ne vous ferai pas avancer, je ne vous mettrai pas en avant par rapport aux autres communautés ». Et la plupart des Peuls n'ont pas de tradition martiale. On parle vraiment de quelques centaines de personnes à tout casser, mais ces quelques centaines de personnes arrivent à tout déstabiliser. Donc de là à dire que les Peuls sont des djihadistes, il y a quand même un grand écart.
Bakonaré, qu'en est-il du processus de désarmement, de démobilisation et réinsertion prévu par l'accord de paix en 2015, accord destiné aux combattants des groupes armés? Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors les groupes armés signataires et ceux qui devaient aller dans ce sens-là, ils devaient à terme ne plus être intégrés désormais à l'armée malienne et aux forces maliennes, mais aujourd'hui chaque groupe armé continue à faire la loi dans les zones qu'elle occupe, et en plus de ça on a l'impression que la situation s'enlise de plus en plus au niveau politique. Il n'y a pas d'innovation là-dessus. Et puis la question s'est posée de savoir aussi si dans le cadre de ces accords d'Alger, il fallait intégrer de nouveaux groupes armés désormais et que ceux-ci soient aussi des défenseurs de leur propre terroir. Donc c'est une espèce d'encouragement des milices, mais en faisant, en exprimant aux gens que s'ils se constituent en milice et qu'ils combattent, après ils peuvent ramener leurs armes et espérer être réintégrés. Et ça explique peut-être une partie, en partie, le succès du recrutement de Dana Amasagou.
Bien, un point peut-être important avec vous, Bakonaré. Les zones sûres se font de plus en plus rares dans ce centre du Mali. Oui. Ça doit rejaillir de manière considérable sur la pastoralité, sur les cultures, sur les cultivateurs, mais aussi pour les éleveurs.
Oui. Alors, toute l'économie, l'économie en termes d'argent, en termes de production et l'économie sociale aussi a été totalement chamboulée parce que désormais il y a des endroits où les bergers ne peuvent pas aller. Depuis plusieurs années, des embargos ont été posés sur des villages, des cercles entiers. On a dit on veut pas de peuls ici, tous les peuls ont été chassés de là. Donc ça veut dire que le commerce n'a plus été possible. La dynamique d'échange social qu'il y avait entre les peuls et les agriculteurs aussi a été vraiment mise à mal. Et puis en plus de ça, les agriculteurs ont également besoin des vaches afin d'apporter du fumier pour les champs.
Pour fertiliser les sols.
Pour fertiliser. Et comme ça, ce n'est pas possible, ça met aussi en danger les cultures. Et puis, je pense qu'un facteur qu'on oublie aussi souvent dans cette question, c'est le fait que la zone du Massina, au centre du Mali, avait été découpée il y a 2 siècles en plein de régions dans lesquelles chacun pouvait négocier avec les leaders traditionnels pour avoir accès aux ressources. Et ça a été totalement mis à mal par le règne des djihadistes, puis par l'insécurité amenée par les milices.
Bien, merci beaucoup, Bakonaré.
Merci
d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association de défense des droits des populations pastorales au Mali. Refermons cette édition en évoquant la visite d'État du président chinois Xi Jinping avec un tête-à-tête avec le président de la République en cette fin d'après-midi sur la Côte d'Azur. Emmanuel Macron tente d'unifier l'Europe et le président chinois. C'est une question que je vais vous poser à vous, Valérie Niquet. Bonjour,
bonjour,
bonsoir. Et à vous, Emmanuel Dubois, le Prisque, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron tente d'unifier l'Europe et si Xi Jinping ambitionnait de le convaincre, comme il a pu convaincre Rome, justement, de prendre part à ces nouvelles routes de la soie. Valérie Niquet.
Alors, je crois qu'on en est quand même très loin. Et justement, d'aller en Italie avant de venir en France, c'est plutôt peut-être pris, ça peut être pris comme une provocation à Paris, connaissant l'état des relations entre la France et l'Italie. Donc, le fait que Xi Jinping choisisse d'aller à Rome, que Rome choisisse de soutenir ce projet des routes de la soie sur lesquelles on se pose énormément de questions, comme d'autres pays d'Europe centrale ou du Sud, ceux qui font partie, en fait, des maillons faibles, hein, si on peut dire, de l'Union européenne. Je ne suis pas certaine que ce soit ça qui convainque le président français d'adhérer à ce projet de route de la soie, qui en plus a plutôt tendance à non pas être en perte de vitesse, on en parle énormément, mais enfin à susciter un certain nombre d'interrogations, ce qui n'était pas le cas quand il a été lancé en 2013, 2015, où là on avait une vision vraiment du monde qui pourrait être dominé par la Chine, alors qu'aujourd'hui, y compris dans des pays comme la Pologne, il y a beaucoup plus d'interrogations sur la pérennité, la qualité des investissements chinois et même sur leur quantité, parce que finalement, Pékin cherche à labelliser avec des financements européens certains projets autoroutiers ou d'infrastructures, par exemple, mais a du mal aussi de plus en plus à financer d'une manière autonome ces projets.
Emmanuel Dubois-Leprisque, votre commentaire.
Écoutez, je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Valérie Niquet. Je crois qu'il faut pas peut-être exagérer, disons, l'importance de la signature de ce mémorandum d'entente entre la Chine et l'Italie. On voit qu'il y a quand même des dissensions au sein du gouvernement italien sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la Chine. Par définition, un mémorandum d'entente a pas de caractère contraignant. Donc certes, l'Italie a donné beaucoup de face à la Chine et la Chine est très heureuse d'avoir signé cet accord. Après, savoir quel type de projets concrets seront entraînés par cet accord, ça reste quand même un point d'interrogation.
Bien, ben on va vous écouter en compagnie de Julie Gacon et de notre invité, justement, écouter, développer vos argumentaires. Quelques mots, Julie, de la météo avant de refermer cette édition. Temps demain, lundi, plus variable que celui d'aujourd'hui, et nuageux en général, avec quelques averses sur le relief de l'Est. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto.